grosse nouvelle cette semaine. J'ai l'impression que ça n'a pas fait tant de bruit que ça, mais moi, ça m'a. Moi, ça a vraiment capté mon attention.
Tout ébranle, Paul. T'es un être sensible.
Non, mais ça, c'est énorme. C'est évidemment cette nouvelle comme quoi l'Agence mondiale antidopage a décidé de réintégrer la Russie au sein de son giron. Malgré le non-respect, faut-il le rappeler, de deux conditions qu'elle avait elle-même énoncées. Si j'ai bien compris, l'Agence mondiale antidopage demandait aux Russes de reconnaître qu'ils avaient mis sur pied un système de dopage étatisé, hein, qui avait caché les résultats positifs de certains athlètes. Et l'autre condition, c'était qu'ils remettent tous les échantillons et tous les résultats du laboratoire de Moscou. Pourtant, ils l'ont pas fait, mais l'Agence mondiale antidopage a quand même décidé de les réadmettre. Pourquoi? Ben, c'est la question que je vais poser à Christiane Ayotte, qui est directrice du Centre de contrôle du dopage de l'INRS et figure de proue de la lutte contre le dopage. Madame Ayotte, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, d'abord, est-ce que vous êtes surprise de la réintégration de la Russie à l'Agence mondiale antidopage au sein du mouvement olympique?
Je pense que je vais me permettre de faire une petite précision ici parce que j'ai l'impression que les gens comprennent pas vraiment, ont pas compris vraiment de quoi il s'agissait.
Allez-y.
On dit pas que les Russes ont jamais triché. Cette décision-là vise à réintégrer ou à déterminer que l'agence antidopage russe est conforme. Donc, c'est pas de permettre que les Russes compétitionnent. Écoutez, j'ai entendu là. Tu sais, c'est un détail, puis dans le fond, c'est mineur, puis ça ne l'est pas. Je suis d'accord avec vous. C'était le point sur lequel l'agence avait comme pouvoir, c'était premièrement de désaccréditer le laboratoire de Russie. Il n'y a toujours pas de laboratoire en Russie. Et de retirer l'accréditation aussi à l'agence russe. C'est l'agence est responsable de chapeauter, de décider, de coordonner les tests antidopage. Donc, oui, c'est vrai, l'agence est suspendue depuis novembre 2015, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas tester les athlètes russes,
okay.
Ils ne pouvaient pas coordonner les tests. Maintenant, ils le pourront, sauf qu'ils sont sous tutelle. Il y a des conditions très strictes qui leur ont été imposées. Donc, à mon avis, là, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais quand vous me parlez de la Russie, c'est bien sûr que jamais, je vais penser que les Russes, que l'agence antidopage russe, que le sport russe, que un labo russe pourra être objectif et indépendant un jour et vraiment travailler contre le dopage.
Ben, c'est parce que l'histoire est assez flamboyante. J'ai vu le documentaire Icarus sur Netflix. Il a gagné d'ailleurs le score du meilleur documentaire l'an passé. Et on apprend dans ce documentaire, c'est complètement fou. On apprend dans le documentaire que le gars, finalement, qui est à la tête de l'agence antidopage russe est aussi le même gars qui est responsable du système de dopage étatisé en Russie. C'est ça?
Mais c'est le gars qui était en charge du laboratoire de contrôle.
Okay.
Et bon, c'était probablement pas mieux à l'agence russe. Là, on savait très bien que les gens qui étaient là, avaient aucune indépendance, c'est-à-dire ils testaient ce qu'on leur disait de tester. Puis quand... Mais oui, Grigory Rodchenkov, qui est quelqu'un avec qui, là, on n'est pas un gros groupe de laboratoires accrédités dans le monde, on est environ 33-35 dans tout le monde, puis Rodchenkov est avec nous, fait partie de ce groupe-là, faisait, depuis les années 80-90, donc c'est quelqu'un qu'on avait dans notre milieu. Alors, évidemment que c'est incroyable ce qu'il a fait. Évidemment que moi, j'accepterai, je le pardonnerai jamais, je lui pardonnerai jamais. Et ce qu'il fait maintenant, c'est-à-dire dénoncer ce qui s'est passé, on veut bien entendre ça, mais c'est quand même scandaleux. Il a participé, il n'a pas été seulement un exécutant, il a participé avec bonheur avec tout ce système-là qui lui procurait du pouvoir, de l'argent aussi, etc. Donc ça, c'est vraiment, je vous dirais, c'est encore aujourd'hui ce que je trouve de plus navrant, de plus choquant. Ouais. Imaginez que moi, je me mette à aider les athlètes canadiens à se doper sans qu'il y ait de sanctions, les aider à choisir les dons, faire des tests en dessous de la table. Ça, vraiment, ça serait épouvantable, mais c'est vraiment ce qu'ils faisaient. Puis les Russes, c'est une puissance mondiale. Donc, c'est dans le sport, c'est vraiment, vraiment épouvantable.
Puis surtout qu'en fait, on a comme l'impression que s'il n'y avait pas eu ce documentaire-là qui a vraiment mis en lumière tout le système de dopage, puis le rôle du Rodchenkov en question, parce qu'il est passé du responsable du système de dopage à ce qu'on appelle un whistleblower, là, un sonneur d'alarme. Là. Mais s'il n'y avait pas eu ce documentaire-là, est-ce qu'il aurait continué de sévir, finalement? C'est la question qu'on se pose.
Non, il était déjà... Il faut... ce qui est pas, c'est, en fait, c'est que l'Agence mondiale antidopage était dans son dos ou le surveillait de près depuis au moins 2012. Il avait réussi quand même à se maintenir malgré des allégations et tout ça parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Mais tout de suite après, quand l'histoire, quand toutes ces histoires-là sont sorties, l'agence a saisi des échantillons et a recommandé qu'il soit congédié. Donc, et quand il a été congédié, c'est là qu'il a quitté la Russie avec son histoire et en ayant contacté le scénariste du film.
Ouais.
Donc, il n'y avait plus de choix. Il restait plus de marge de manœuvre. Et c'est pour ça qu'il a décidé de dévoiler ce qui a été fait. Mais effectivement, je vous dirais que oui, il fallait. C'est pas le documentaire nous a pas appris rien de plus que ce que nous on savait déjà. Moi, je vous dirais que ce qui me choquait aussi dans ce documentaire-là, puis dont personne parle, c'est toute la première partie où Fogel, celui qui fait le film, se dope pour une compétition cycliste, puis qui se dope à des hormones de croissance, testostérone et EPO, qui lui sont procurées par des médecins aux États-Unis, des médecins de l'anti-vieillissement. Puis ça passe comme du beurre dans le poêle. Moi, je trouve ça aussi proprement scandaleux de voir comment c'est facile de se doper ou d'avoir accès à des produits. En plus, ce que je trouve qui est malhonnête aussi dans le film, c'est de prétendre que ça n'aurait pas été détecté du dopage comme ça. Mais au total, je pense que ce film-là nous a ouvert les yeux à la population pour bien des choses, effectivement.
Parlant de la facilité d'ailleurs que ce gars-là a à trouver, à se faire fournir ce type de dope-là aux États-Unis, selon Dick Pound, qui est l'ancien président de l'Agence mondiale antidopage, les systèmes de dopage comme celui de la Russie, c'est pas le simple fait de la Russie. Il y a d'autres pays qui seraient très organisé dans la façon dont ils fournissent certains produits à leurs athlètes. Ils nomment notamment à demi-mot les États-Unis. Ça, c'est inquiétant.
Effectivement, écoutez, il y a des le monde de l'antidopage, c'est pas si grand que ça. Et tout le monde se connaît et tout le monde se lance dans cette histoire-là. La semaine dernière, j'ai regardé les réactions. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de règlements de compte là-dedans.
Okay.
Notamment, le Travis Tygart de l'Agence antidopage américaine a lancé des pics à la mode. Les Canadiens aussi, les Norvégiens aussi. Et je pense que Dick Pound a pris la position inverse, c'est-à-dire qu'il a lancé des pics à l'agence américaine. Alors, il faut prendre ces guerres-là pour mieux évaluer la situation. Cela dit, moi, je dirais jamais qu'il n'y a pas un pays où le dopage est complètement absent. Il y a des pays qui font leur boulot très sérieusement, il y en a d'autres qui le font moins. Il y a des ténors de l'antidopage qui parlent fort, mais qui peut-être agissent moins qu'ils devraient. Bref, il y a tout ça dans ce monde-là, mais il demeure au total qu'il faut rester extrêmement vigilant, puis que moi, personnellement, je commence à les trouver un peu toxiques. Cette gang de boys, là, mais je fais du sexisme. Mais, je commence à les trouver toxiques, puis je commence à trouver qu'ils tirent la couverte de leur côté au lieu de travailler tous ensemble de façon unie, ce qui est la seule façon, si on supporte l'Agence mondiale antidopage au lieu de lui tirer des boulets dans le dos.
Parce que ça devient politique quasiment à un moment donné.
Effectivement. Effectivement, effectivement. Ouais, et ça. Là, ces guerres-là, moi, je trouve qu'il y en a là, qui pourraient être mûrs pour prendre leur retraite. Il y a du sang neuf qui arrive et un désir de coopération qui est très nécessaire. C'est okay. choquant. Là.
Et vous qui avez dédié votre carrière, Christiane Ayotte, à la lutte contre le dopage, est-ce que croyez-vous qu'un jour, on va assister à des Jeux olympiques sans dope?
Non. Pas
c'est
tout
un
suite,
peu pessimiste,
en tout cas.
Non?
Ça va prendre beaucoup plus de temps que naïvement je pensais. Je pensais quand je suis arrivée dans des laboratoires, dans un laboratoire antidopage, je m'étais dit, bon, là, maintenant, tout le monde part au même point. On sonne le début de la course. Dans 10 ans, ça devrait être réglé. Alors, c'est sûr qu'on rend ça de plus en plus difficile. Mais c'est pas, ça sera très difficile. C'est impossible. C'est comme pas possible de penser que sur les 12 000 athlètes qui se retrouvent dans les Jeux Olympiques d'été, il y en aura pas un qui sera dopé. Il faut pas, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Il faut rester pragmatique là-dedans. Mm-hmm. Mais moi, je peux vous affirmer que c'est toujours de plus en plus difficile de se doper. Des Russes, c'est à la peine qu'il y en a qui ont été positifs et suspendus. On y pense pas assez, là. Le système antidopage mondial attrape, entre guillemets, ben des tricheurs.
OK. Christiane Ayotte, directrice du Centre de contrôle du dopage de l'INRS. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Ben, je vous en prie. Merci de vous intéresser à ce sujet-là.
Ben, c'est fort intéressant, surtout quand vous nous l'expliquez. Merci. Bonne journée.
Merci. Bonjour.
Ouais, c'est...
Sauf que Paul, moi, ça me fait mal ce qu'a dit Mme Ayotte. Ça me donne le goût de chanter « Ayotte, tu me fais mal à mon cœur d'animal! » Comprends-tu? Je m'exprime.
C'est presque déprimant.